Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues. Deep Purple a été formé en 1968 autour de John Lord, qui joue de tous les claviers possibles et imaginables, né en juin 1941, mais malheureusement décédé en juillet 2012, du guitariste Ritchie Blackmore, né en avril 1945, et du batteur Ian Paice, né lui en juin 1948, qui sont rejoints pour former la deuxième configuration du groupe, dite Mark II, né en 1969. Et ils sont rejoints donc par le chanteur Ian Gillan, né en août 1945, et le bassiste Roger Glover, qui est né en novembre 1945. Et comme pour le Led Zeppelin volume 4, je vais tâcher de vous passer tout l'album Machine Head, voire même rajouter un morceau à la fin. Mais on en reviendra à la fin. Après le succès relatif de Fireball, l'album précédent, Deep Purple veut se donner le temps de réussir le suivant. L'annulation d'une tournée aux États-Unis suite à la maladie de Ian Gillan, qui a eu une hépatite en fait, eh bien le groupe se retrouve avec un mois de vacances qu'il va mettre à profit pour créer ce qui sera donc ce fameux album Machine Head. C'est le sixième album studio du groupe, il sera enregistré en décembre 1971 à Montreux, en Suisse, et publié en mars 1972. Machine Head est souvent cité comme une influence majeure pour le heavy metal. Sur le plan commercial, ce sera un véritable triomphe et consacrera Deep Purple en tête des charts dans plusieurs pays. En effet, l'album a atteint la première place au Royaume-Uni et est resté dans le top 40 pendant 20 semaines. Il a tenu la 7e place aux États-Unis et est resté au Billboard 200 pendant plus de 2 ans. Deep Purple avait initialement prévu d'enregistrer son album au Casino de Montreux avec le studio d'enregistrement mobile des Rolling Stones. Avant cela, la veille du début de l'enregistrement, il devait y avoir le concert de Frank Zappa and the Mothers of Invention. Or, malheureusement, un spectateur a tiré une fusée éclairante qui déclencha un incendie détruisant tout le bâtiment. Il fallut alors trouver un autre site qui fut, grâce à Claude Knobs, dirigeant du festival de Montreux, le Grand Hôtel. Et l'affaire fut dans le sac. Comme l'annonce Ian Gillan à l'ouverture des concerts de Deep Purple, Highway Star est le titre d'ouverture de l'album Machine Head. C'est la chanson la plus rapide en tempo dans l'album. Elle se caractérise par de longs solos pour guitare et orgue, inspirés de la musique classique. Ça, c'est un des grands marques de Deep Purple. En effet, l'organiste John Lord a affirmé que les solos pour orgue et guitare étaient basés sur des séquences d'accords inspirées de Bach, rien que ça. Et c'est vraiment perceptible durant les solos, essayez d'y prêter attention. Cette chanson est née dans un bus de tournée en partance pour Portsmouth en 1971, quand un journaliste a demandé au groupe comment ils écrivaient des chansons. Pour démontrer la méthode, Ritchie Blackmore a saisi une guitare acoustique et a commencé à jouer un riff composé d'un simple sol, ou J comme vous voulez, répété à plusieurs reprises. Tandis que le chanteur Ian Gillan s'est mis à improviser des paroles toujours plus haut. La chanson a été raffinée et a été interprétée le soir même. Elle était prête en fait pour être enregistrée au studio. Ces accords tranchants dans l'intro et l'incroyable solo de guitare mettant en vedette les pistes descendantes des néoclassiques et distinctives, combinant les esprits de Bach et de Jimi Hendrix, ont fait la réputation du morceau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez vite comprendre. Les lecteurs de Guitar World l'ont classé 19e dans leur liste des 100 meilleurs solos de guitare. We'll be right back. C'était Highway Star par Deep Purple sur Oxy Web Radio. Pour la chanson suivante, Maybe I'm a Leo, c'est Roger Glover, le bassiste, qui a écrit le riff, après avoir entendu la chanson de John Lennon, How Do You Sleep. Il a aimé l'idée que le riff ne commence pas sur le temps, comme le font 99% des riffs, et la plupart des chansons de Machine Head datent de la première prise ou peu de temps après. Ce qui veut dire qu'en fait, ce morceau-là est sorti comme ça, un peu spontanément. Le chanteur Ian Gillan est un lion, du signe du zodiaque. Il est né en fait en août, et c'est le seul membre du groupe de l'époque qui porte ce signe astrologique. Comme c'est lui l'auteur des paroles, il y a une inspiration aisée à déduire. La chanson était rarement jouée en live ou en concert par le groupe. À noter une version dans l'album anniversaire de Machine Head qui contient un solo de guitare légèrement différent. Ça peut être intéressant à écouter. Ceci dit, au niveau des reprises, Van Halen ou Glenn Hughes, par exemple, ont repris ce morceau comme God Mule. Bref, redécouvrons Maybe I'm a Leo. Peut-être suis-je un lion, ce qui est d'ailleurs mon cas. C'était Maybe I'm a Leo par Deep Purple sur Oxy Web Radio. J'adore les intros du batteur Ian Paice. Bon, la chanson suivante, Pictures of Home, commence effectivement par une introduction à la batterie jouée par Ian Paice. Elle présente un riff de guitare et une ligne de basse particulièrement entraînant, avec un rythme que je considère très rapide et contient plusieurs solos instrumentaux. Selon le magazine Classic Rock Review, Pictures of Home est le morceau de Deep Purple le plus émouvant de tous les temps. Un tempo rythmé par une voix entraînante, des mots lyriques profonds. Tous accentués par l'orgamon de John Lord, distinct et déformé. Roger Glover réalise même un bref solo de basse au milieu du morceau, avant que Richie Blackmore ne se mette à décoller avec son surprenant faux arrêt et un retour qui rend la chanson encore plus intéressante. Richie Blackmore a déclaré avoir été inspiré par une chaîne de radio à ondes courtes, probablement issue de Bulgarie ou en Turquie, lors de l'écriture du riff principal. Les paroles de Ian Gillan étaient le résultat de la paranoïa qu'ils avaient en studio et du mal de la maison. En fait, toutes ces séances d'enregistrement sont très longues et fatigantes. C'est la seule chanson de Machine Head qui n'ait pas été interprétée en live lors de la tournée de Deep Purple en 1972. En effet, Richie Blackmore a refusé de jouer la chanson en live. Depuis le remplacement de Richie Blackmore par Steve Morse dans la configuration de Deep Purple qui continue toujours en tournée, la chanson est devenue un élément récent des concerts de Deep Purple. J'ai eu le bonheur de l'écouter à Bordeaux et je peux vous dire que ça donne.
Nobody's up there, into the center.
C'était Pictures of Home, des photos de la maison, par Deep Purple sur Oxy Web Radio. Quand je vous dis que j'aime les intros de Ian Paice. Bon, avec Never Before, on a une chanson qui est sortie en single et qui a atteint la 35e place au Royaume-Uni. Je parle des charts, bien entendu. Il y a même eu une vidéo promotionnelle qui a été réalisée pour cette chanson en 1972. La version unique de la chanson est une édition de la version de l'album et dure 3 minutes 30. Il n'y a pas eu d'adaptation pour le single. Never Before a rarement été joué en direct, malgré le fait donc qu'elle soit sortie en single. Le seul enregistrement live de cette chanson apparaît sur Deep Purple in Concert, qui a été enregistré au moment de la sortie du single, environ une semaine avant la sortie de Machine Head. Deep Purple a joué Never Before en tournée en 2004, alors qu'il jouait tout l'album Machine Head. Le riff de la guitare de Do You Feel Like We Do de Peter Frampton ressemble étrangement beaucoup à cette chanson, même si évidemment la différence réside dans le fait que d'un côté il y a une l'orgue de John Lord qui joue et de l'autre, tard de Peter Frampton. Gary Burden a repris la chanson sur son album de reprise de 2011, Rock'n'Roll My Soul. Le groupe de métal italien, même Bayadion, a joué la chanson sur son propre album Born to Fly. Tout ça pour dire que cette chanson, qui a eu un succès très très relatif, finalement, eh bien, marque quand même les esprits et reste tout à fait appréciée par les fans de Deep Purple, dont je suis. C'était Never Before, Jamais Avant, par Deep Purple, sur Oxy Web Radio. Ah, cette intro de Richie Blackmore sur Made in Japan pour ce fameux nouveau morceau qui s'appelle bien sûr Smoke on the Water. Ce morceau est bien sûr connu et reconnaissable rien qu'à son riff, ce riff créé par Richie Blackmore. C'est une mélodie de gamme de blues en sol mineur composée de 4 notes harmonisées en quarte parallèle. Et la progressivité du démarrage avec le riff seul, puis l'effet de frottement sur le charleston, puis l'orgue qui apparaît, un orgue complètement dont le son est déformé, et enfin des parties de basse électrique avant le début du chant par Ian Gillan. C'est cette intro complète, à elle seule, suffit à rendre ce morceau célèbre et fameux. Richie Blackmore affirma plus tard que le riff était en fait une interprétation, en inverse, de la symphonie numéro 5 de Ludwig van Beethoven. Et il termina son propos, de manière assez ironique comme il le fait souvent, et je lui dois beaucoup d'argent à ce type, parlant bien sûr de Van Beethoven. John Lord double la partie guitare de l'orgue Hammond, C3, en jouant via un ampli Marshall dont le son sort complètement déformé, créant un son très similaire à celui de la guitare. Et ça, c'était assez remarquable au départ. Richie Blackmore joue généralement le riff principal avec un médiator, tout ça pour accentuer le son. Les paroles racontent l'histoire dont vrai de Montreux et du désastre du casino qui est parti en fumée. Et cet incendie, il faut le savoir, a fortement frappé Roger Glover, le bassiste, qui se réveilla un matin en disant « Smoke on the water » en regardant par la fenêtre. Et Ian Gillan aussitôt saisit cette expression et développa les paroles de la chanson. La chanson est populaire parmi les guitaristes débutants et Richie Blackmore a indiqué comment bien jouer le riff et c'est souvent cette méthode qu'appliquent les débutants pour y arriver très facilement. Enfin, il faut savoir que Smoke on the Water a failli ne pas rentrer dans les 500 plus grandes chansons de Rolling Stone. C'était Smoke on the Water par Deep Purple sur Oxy Web Radio. La chanson suivante, Lazy, commence par un instrumental. En effet, John Lord joue une intro saturée pour orgue, suivie du riff principal de l'échange et de l'échange solo entre lui, John Lord, et Ritchie Blackmore. Le chant de Ian Gillan arrive plus tard dans la chanson. Il utilise également l'harmonica, à la fois en version studio et il le fera également en concert. Avec plus de 7 minutes, il s'agit du titre le plus long de l'album et les versions live duraient presque 10 minutes. Il faut savoir que la version en concert, qui existe d'ailleurs dans Made in Japan, reprend un thème de Swedish Rhapsody de Hugo Elfrén, interprété par Ritchie Blackmore dans le cadre de son solo de guitare. De plus, John Lord inclut le riff du Sejam Blues dans l'intro, que nous avons pu entendre en partie. Gillan a défini la chanson comme une sorte de mélange de rhythm and blues et de blues, voire du jazz. Les versions ont évolué dans le temps. Les concerts qui ont suivi la réunion du groupe en 1984, par exemple, a eu tendance à être beaucoup plus courts, supprimant l'intro et l'un des couplets, pour en venir plus directement au fait. Cependant, les performances plus récentes avec Steve Morse sont revenues à l'arrangement original. Les lecteurs Guitar World ont élu Lazy comme 74e meilleur solo de guitare de tous les temps. Des sections de cette chanson ont souvent été utilisées en Australie dans le programme Channel 9 Wild World of Sports lors du montage de publicité. Enfin, Jess Grace, écrit pour Guitar Player Magazine, et à noter que Ritchie Blackmore imite les Blues Breakers, époque Clapton, avec par exemple Stepping Out, jusqu'à prendre le même style de swing. Peut-être un hommage à Clapton? Qui sait? Yeah. c'était Lazy, ou Paresseux, par Deep Purple, sur Oxy Web Radio. Et on en arrive déjà au 7e morceau, Space Trucking, qui est donc le dernier morceau de l'album véritablement sorti, Machine Head, et ses paroles parlent de voyage dans l'espace. La version de l'album est un bon rock, alors que sur scène c'était un peu différent. En effet, il prenait alors une autre dimension avec des rajouts de solos tirés de morceaux anciens de Deep Purple comme Mandrake Roots de leur premier album, ou des improvisations de John Lorg à l'orgamon bien sûr, et de Ritchie Blackmore et ses solos de guitare. Et lui aussi d'ailleurs s'inspirait de morceaux des albums précédents de Deep Purple. La durée passait alors à plus de 20 minutes, en finale des concerts en plus. On trouve un bon exemple de cet arrangement dans l'album Made in Japan, bien entendu, où Blackmore joue le solo violoncelle de Fools de Fireball. John Lord a joué son solo via un modulateur en nano, où elle a joué sur un synthétiseur harp. Pendant ce temps, Ritchie Blackmore divise généralement le solo de guitare en deux moitiés, une section calme avec juste une batterie, puis une section forte avec le groupe au complet. La seconde moitié était souvent le moment où Ritchie Blackmore écrasait sa guitare contre les amplis, la jouait avec ses pieds ou la jetait en l'air. L'un des incidents les plus tristement connus s'est produit lors du festival California Jam en 1974, où il a laissé tomber une guitare au bord de la scène, en a cassé une seconde contre une caméra de télévision, puis a mis le feu à son amplificateur qui a ensuite explosé. Je me souviens qu'à l'époque, ça avait donné lieu à des demandes d'indemnisation de la part des organisateurs. Mais voici la simple version rock de l'album studio, qui est encore pas mal.
Where we are.
c'était Space Trekking, voyage spatial par Deep Purple sur Oxy Web Radio. J'ai voulu absolument vous passer When a Blind Man Cries, qui a été enregistré lors des sessions de Machine Head. Malheureusement pour ce titre, que j'aime beaucoup, Ritchie Blackmore ne l'aimait pas du tout. Le groupe ne l'a jamais joué en concert, sauf en avril 72 à Québec, au Canada, quand Ritchie Blackmore, malade, fut remplacé par Ronnie California du groupe Spirit. Ian Gillan a fréquemment interprété la chanson lors de sa carrière solo au début des années 90. Selon Ian Gillan, si vous pensez à la phrase « When a blind man cries », quand un aveugle pleure, alors c'est assez triste. Or, ceux qui sont désavantagés ont tendance à se plaindre beaucoup moins que ceux qui sont valides. C'est sûrement vrai. Plus tard, quand Joe Satriani a remplacé Ritchie Blackmore en tournée, When a Blind Man Cries a rejoint la setlist des morceaux joués sur scène dès décembre 1993. Depuis, cette chanson est devenue une référence incontournable dans les concerts, prétexte à un long solo de guitare très très blues. Ainsi se termine la présentation de ce fabuleux album Machine Head, qui a fait l'objet d'un documentaire que je vous conseille de regarder sur YouTube dans la série Classic Albums, où on explique par le menu le détail de la fabrication, si j'ose dire, des différents morceaux. C'est très instructif. La semaine prochaine, je vous parlerai de J.J. Cale et de son album Naturally, qu'il révéla à la terre entière. Mais d'ici là, bah, on le blues. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man. I'm a blind man. And my world is pale. When a blind a cold month.